Alors, la miséricorde, parce qu'on est le dimanche de la miséricorde, et c'est ce que ça change de célébrer le dimanche de la miséricorde. Pourquoi Jean-Paul II a voulu qu'on célèbre ce dimanche de la miséricorde? Parce qu'on n'a pas changé les textes de la liturgie, c'est toujours le même évangile, etc. Je vous cite Jean-Paul II. « Il ne s'agit pas d'un message nouveau, mais on peut le considérer comme un don d'illumination particulière qui nous aide à revivre plus intensément l'évangile de Pâques pour l'offrir comme un rayon de lumière aux hommes et aux femmes de notre temps. » Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de le relier un peu à Pâques, quand même, ce dimanche de la miséricorde, parce que c'est peut-être absolument clair dans vos esprits, mais bon, quelquefois, il vaut mieux enfoncer les portes ouvertes. Donc, l'évangile d'aujourd'hui, clairement, il est question de miséricorde, puisque Jésus apparaît, et puis ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur sont remis, celui, voilà. Donc, clairement, il est question de miséricorde. Il offre sa miséricorde. Mais, alors, cette année, plus que les autres, j'ai été marqué par un texte que vous connaissez certainement par cœur, du troisième chapitre de l'Épître aux Colossiens. On avait juste les 3-4 premiers versets pour le jour de Pâques. Alors, dans ce texte, il est question de la vie nouvelle. Et qu'est-ce que c'est que la vie nouvelle? Alors, longtemps, je me disais, bon, la vie nouvelle, c'est être bon avec les autres, etc. Mais plus précisément, alors je vous reprends quelques versets de saint Paul aux Colossiens. Alors déjà aux Romains, ça c'était la vigile pascale. Si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et dans l'Épître aux Colossiens, alors Jésus nous donne la grâce de ne pas tomber dans un certain nombre de désordres, débauche, impureté, passion, désir mauvais, cette soif de posséder qui est une idolâtrie, colère, emportement, méchanceté, insulte, propos grossiers sortis de votre bouche, mensonge, etc. Mais je pense que ça ne vous concerne pas tout ça. Donc. Mais après, alors ça c'est la vie ancienne, on va dire. Revêtez-vous, et ça c'est la vie nouvelle, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Ça, donc, c'est au chapitre 12 et 13. Et du coup, ce qui me marque dans cette description de la vie nouvelle, c'est qu'il est beaucoup question de notre réaction vis-à-vis du mal. La compassion, alors ça c'est pas un mal moral, mais c'est la patience, le pardon, le support, supportez-vous. Donc c'est quand la vie nouvelle, c'est vraiment une réaction particulière devant le mal. Il me semble d'être vainqueur du mal par le bien, comme dit saint Paul dans un autre endroit. Et du coup, je pense que ça m'éclaire davantage aussi sur pourquoi ce dimanche-ci est le dimanche de la miséricorde. Alors, peut-être une autre précision, c'est pour ça que je vous ai ramené. La miséricorde, c'est pas un sentiment un peu bonasse, là, voilà, où on laisse un peu tout faire, l'indulgence, voilà. C'est pas ça la miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle est virile, hein, si je peux dire. C'est pas parce que c'est quelque chose de fort la miséricorde. C'est surmonter le mal par le bien. C'est pas laisser faire le mal. Non, ça c'est pas la miséricorde, laisser faire le mal. Et justement, on le voit dans la lignée de Pâques, c'est Jésus est mort à cause du mal, et il a accepté de donner. Donc, c'est la miséricorde de Dieu, c'est pas quelque chose de bonheur, je laisse tout faire. Non, Jésus est mort. La miséricorde, ça lui a coûté la vie. Et alors, il y a une chose que disait souvent Jean-Paul II, et il l'a voulu pour ça aussi, cette fête de la miséricorde, c'est imposer une limite au mal. Alors, ça nous paraît peut-être un peu étrange. Je vous lis. Alors, il disait ça dans Mémoire Identité. La miséricorde divine est l'ultime rempart opposé par Dieu au mal, la limite imposée au mal dont l'homme est l'auteur et la victime, et en définitive la divine miséricorde. Ça me fait penser, donc, dans les, montagne, pas tellement en Picardie, mais il y a des voies de décélération. Hein, quand ça commence à s'emballer, etc., plutôt que de taper contre un mur, ou enfin d'arriver en bas de la pente et que ça se passe mal. Donc il y a des voies de décélération. Pour moi, la miséricorde, c'est un peu simple. On est pris dans une spirale un peu infernale. Et comment arrêter la miséricorde? C'est ce qui nous est offert justement pour arrêter dans un cycle de mal, dans une spirale du mal, etc. Pour moi, c'est ça, la miséricorde. Et le contraire, la miséricorde, c'est un mur dur. On stocke dedans, ça rebondit, ça va un peu plus loin, et puis voilà, ça n'en finit plus, on voit dans le monde actuel. Et pourquoi Jean-Paul II a voulu, je pense, hein, cette fête de la divine miséricorde, pour se dire non, c'est pas indéfiniment, on se tape dessus, après il y en a un autre qui se venge, et puis on n'en finit plus. Alors, dans les choses humaines, hélas, c'est ça qui arrive. Pas toujours, mais souvent. Et du coup, voilà, de donner cette espérance. Non, c'est pas ça qui est le plus puissant, c'est la miséricorde de Dieu qui est manifestée, notamment par la croix de Jésus. C'est le cardinal Ratzinger, juste avant le conclave de 2005, qui disait que la miséricorde n'est pas une grâce à bon marché. Elle ne suppose pas la banalisation du mal. J'aime bien cette... Voilà, c'est pas une grâce à bon marché parce qu'elle écoutait la vie de Jésus. Bon, je vous cite pas tout, sinon je... Voilà, ça c'était mon introduction. Maintenant, il y aura trois parties, selon mon habitude. Il y a des exceptions. Mais bon. D'abord, sur l'importance du pardon et de la miséricorde. Pas seulement la miséricorde, ou pas seulement le pardon, mais aussi la miséricorde. C'est plus large, la miséricorde, que le pardon. Hein. La deuxième chose, ça sera miséricordieux parce que déjà bénéficiaire de la miséricorde. Hein. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Enfin, vous voyez ce comme. Voilà. Et la troisième partie, c'est trois facettes de la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est pas simplement par rapport au péché, hein, c'est par rapport aussi au mal physique, à la souffrance, etc. Donc là, il y a les œuvres de miséricorde, c'est pas spécifiquement vis-à-vis du péché, hein, c'est voilà, prendre en compte la misère de l'autre. Après, c'est travailler une culture de miséricorde, c'est plutôt un peu diffus, et puis après, pardonner. Ça vous va? On est parti? Je vous ai déjà emmêlé? Non? Ça va. Donc, la première partie, donc, c'est plutôt sur l'importance de la miséricorde, de rêver de la miséricorde. Vous ne rêverez pas de la ceinture de Père Éric ou de la cloche, là. Oui, enfin, vous ne ferez pas de cauchemar avec ça, mais vous rêverez de la miséricorde. C'est quand même, je pense que tous, d'avoir le droit à l'erreur, c'est autre chose que de se dire si je fais un pas de côté, voilà, je me fais. C'est compliqué, hein. Et dans le monde, ben voilà, on a. Il y a un monde qui est souvent dur. Ah, une citation, je ne sais pas où elle est. Oui, c'est Bernanos. Le monde moderne a froid et claque des dents. Ben voilà, quand il n'y a pas de miséricorde, c'est un peu compliqué, hein. Sitôt qu'on fait un pas de côté, voilà. Bon. Et je pense que la miséricorde est belle parce qu'elle nous redonne espérance. De rêver de la miséricorde de Dieu. Voilà ce que disait Jean-Paul II dans son encyclique sur le Dieu riche en miséricorde. L'amour de Dieu est capable de se faire proche de chaque enfant prodigue, de chaque misère humaine. Et celui qui est ainsi l'objet de sa miséricorde ne se sent pas humilié, mais comme retrouvé et revalorisé. J'aime bien la miséricorde qui revalorise. Voilà. Et ça nous fait du bien pour ça, la miséricorde. Ou une citation de l'Ecclésiastique, c'est l'Ancien Testament. Hein. La miséricorde est bonne au temps de la tribulation comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. Alors j'ai trouvé une réflexion de Don Louf. Vous savez qu'il était père abbé du Mont des Cas pendant des années. Et là, il disait qu'il notait que la miséricorde allait de pair avec la joie. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, vous vous rappelez les trois paraboles de la miséricorde de Saint Luc, là au chapitre 15, hein, la drachme perdue, la brebis perdue, et puis le fils prodigue. Hein, donc. Et dans chacune, quand il retrouve, il est dans la joie. Et alors, voilà ce qu'il écrit. La joie dit quelque chose de plus que la miséricorde. Être occasion de joie pour quelqu'un n'est pas la même chose qu'être l'objet de sa miséricorde. La vraie miséricorde, celle que Dieu nous fait, ne peut faire abstraction de la joie de Dieu. J'aime bien cette expression. C'est la miséricorde qui parvient vraiment à son accomplissement. Bon, quelqu'un qui te fait miséricorde, bon, allez, je te supporte. Bon, c'est quand même... voilà, bon. Il n'y a pas de représailles, c'est déjà quelque chose, mais on voudrait quelque chose de plus. Et justement, je trouve que c'est beau ce que dit Don Louf. Voilà, que la miséricorde de Dieu n'est pas condescendante. Il est vraiment heureux de nous retrouver, parce qu'on lui manquait. Donc ce n'est pas juste une condescendance, allez, je te passe un coup d'éponge et puis on repart. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et du coup, je pense que ça fait du bien de rêver un peu de miséricorde. Alors là, je change un peu, ça ne vous fera pas rêver. C'est Paris, je prends souvent cette image, une grève des éboueurs pendant 2 mois à Paris. Vous imaginez. Alors, vous faites travailler vos 5 sens, les odeurs, la vue, le... Ça serait quand même compliqué. Et en fait, dans toutes nos vies, que ce soit une vie communautaire, une vie de couple, une vie de famille, mais il y a des déchets dans la vie, si je peux dire. Ça fait partie de la vie, qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait des... Même s'il n'y a aucune mauvaise intention, le fait de vivre ensemble, d'être des êtres imparfaits et vivre ensemble, même des êtres pas imparfaits, parce que vous voyez déjà entre Jésus, Marie et Joseph, bon, c'est quand même... quand même pas mal, mais pourquoi m'avez-vous cherché? Ne savez-vous pas nous te cherchions tout angoissés, et pourquoi m'avez-vous cherché, mon... il y a besoin de... C'est pas si simple que ça. Et ça fait partie de notre vie. S'il n'y a pas de miséricorde, c'est comme, vous imaginez, Paris, une grève des éboueurs pendant... Et je pense qu'on a besoin de la miséricorde au jour le jour. Ça veut dire que ce n'est pas de temps en temps. C'est au jour le jour, on a besoin, parce qu'au jour le jour, on se blesse. Il y a des incompréhensions, des maladresses. Il y a plein de choses au jour le jour qui arrivent. Et du coup, cette image n'est pas très bucolique, mais voilà. Mais en même temps, vous voyez, si c'était la grève, vous ne savez plus comment marcher, vous butez dans plein de choses. Quand il n'y a plus de miséricorde, on ne sait plus très bien comment se situer, alors on est encore plus maladroit. Vous sentez, quand c'est un très bon signe en communauté, quand les frères disent « Oh, pardonnez-moi, j'ai fait telle chose qui avoue sans même qu'on lui ait demandé. » Oh là, si vous savez la gaffe que j'ai faite, ou je ne sais pas. Je trouve que c'est très bon signe, parce que du coup, ça simplifie beaucoup les relations. Mais quand on s'attend un peu au tournant, alors c'est compliqué les relations. Il y a des situations où c'est très compliqué. On dit quelque chose, on ne sait pas comment ça va être interprété, bien, mal, parce qu'on n'est pas dans un climat de miséricorde. Voilà. Alors je quitte l'image... pas très bucolique de la grève des éboueurs. Et pour dire que cette miséricorde, c'est pas seulement pour l'avenir, c'est pour aujourd'hui. C'est pas simplement pour quand on arrivera au ciel, parce que déjà maintenant, vous pouvez faire de votre vie familiale soit un petit ciel, soit un petit purgatoire, soit un enfer. Tout dépend de la miséricorde. C'est déjà pour maintenant. Déjà, c'est pas seulement pour... déjà maintenant, vous faites votre choix, hein, vous faites comme vous voulez, je trouve que c'est intéressant de voir que déjà, qu'est-ce qu'on veut, on peut déjà faire de nos familles, hein, déjà. On n'est pas encore tout à fait arrivé au ciel, hein, il y a des choses, voilà. Mais par la miséricorde, on a quand même un avant-goût du ciel déjà maintenant. Donc voilà ce à quoi je vous invite. Ça, c'était la première partie, l'importance du pardon et de la miséricorde. Maintenant, j'attaque la deuxième partie. C'est, voilà, c'est plus un commentaire de la béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Hein, ce lien entre la miséricorde qu'on reçoit de Dieu et des autres et la miséricorde qu'on accorde aux autres. La première chose que je voulais évoquer, il y aura trois points aussi, c'est d'accueillir la miséricorde. C'est pas forcément si simple que ça d'accueillir la miséricorde. On peut nous l'offrir, mais et Jésus nous offre son pardon, mais est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Parce que de toute façon, pour la redonner, il faut d'abord l'accueillir avant. Sinon, ça sera un peu compliqué de la redonner. Mais de l'accueillir. Parce qu'on a... je parle de moi, je ne parle pas de vous, mais quelquefois, on a un peu d'amour propre. Hein, quand on... Du coup, reconnaître ses torts, reconnaître... voilà, c'est... On a notre fierté qui est un peu blessée. On se trouve, qu'est-ce que j'ai été nul et tout ça. On s'en veut à soi-même d'abord. Et du coup, une petite citation de Sainte Marguerite Marie. Que votre principal soin de tout quitter vous-même soit de tout quitter vous-même. Et toutes les réflexions d'amour propre qui font un grand obstacle au dessein de Dieu sur vous. Abîmez toutes vos misères dans la miséricorde de l'aimable cœur de Jésus. Et ne pensez plus qu'à l'aimer en vous oubliant vous-même. Et puis laissez-le faire tout ce qu'il voudra en vous et de vous et pour vous. Mais voilà, les réflexions d'amour propre qui sont un grand obstacle. Et de fait, bon... Et à quel est l'ordre des béatitudes? L'ordre, dans quel ordre sont les béatitudes? Alors, juste, c'est sans doute pas fortuit, la béatitude de la miséricorde vient après la béatitude des larmes. Bon, la béatitude des larmes, où on a conscience aussi de sa misère, etc. Et après, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et je trouve que c'est intéressant. Et cette miséricorde de Dieu, elle nous... on a du mal à l'accueillir, et pourtant, la miséricorde de Dieu ne nous humilie pas. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas nous humilier. Une citation peut-être de Saint Jean 23. Il fait référence au passage de Saint Luc où Saint Pierre commence à marcher sur l'eau et puis au moment où je risque d'être submergé, Jésus marchant sur les eaux vient à ma rencontre. En souriant pour me sauver. Je voudrais lui dire avec Pierre, éloignez-vous de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Mais je suis devancé par la tendresse de son cœur et par la douceur de ses paroles. N'aie pas peur. Enfin, tous les saints pourraient vous en parler. Il y a Sainte Thérèse. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Mais, voilà, du coup, finalement... Pour accueillir la miséricorde, c'est arrêter de se regarder le nombril et de se... Voilà, ben je suis comme ça, et puis j'arrête de me torturer d'avoir des travers. Voilà. Il y a un passage évangélique qui me marque particulièrement, entre autres. Hein, mais c'est la parabole du débiteur impitoyable. Vous voyez, c'est Saint Matthieu au chapitre 18. C'est celui qui doit 60 millions de pièces d'argent et il lui remet tout. Et il le supplie, hein, 60 millions de pièces d'argent, ça faisait 200 000 années de travail, je crois. Donc, vraisemblablement, même s'il promettait de rendre tout, bon, même Mathusalem n'aurait pas pu, quoi. Donc, bon. Le maître lui remet, et puis après, il y en a un qui lui doit 100 pièces d'argent, c'est 100. Donc ça fait 3 mois de travail, hein. C'est quand même pas rien. Hein. Quelqu'un vous doit 3 mois de travail, voilà, c'est quand même pas rien. Mais comparé à l'autre, c'est rien. Mais alors, ce qui me marque, c'est, je me dis, il n'a pas dû réaliser que son maître lui avait remis 60 millions de pièces d'argent. Je pense que s'il était trop, il avait le regard fixé sur les 100 pièces d'argent que l'autre lui devait, mais il avait complètement oublié, il avait zappé. Et alors, je fais souvent de la publicité pour le miracle de la gratitude, hein, un parcours de... Voilà. Mais je me dis que il a avalé tout rond la miséricorde de Dieu, mais il ne l'a pas dégusté, il ne l'a pas apprécié. Et je pense qu'on a besoin d'apprécier, pas simplement d'avaler tout rond, pour ainsi dire, la miséricorde de Dieu, mais de la goûter. Parce que quel inconscient, enfin, quand on pense, 60 millions de... S'il l'avait goûté un petit peu, évidemment, c'était même pas possible qu'il saute sur l'autre. Mais il n'en a pas pris conscience. Il n'a pas fait l'exercice de la gratitude, hein, en 6 étapes. C'est le père Pascal Hyde qui avait écrit un article là-dessus. Donc, non, il avait gobé tout rond et puis point, et puis il était passé à autre chose. Mais non, du coup, je trouve que c'est intéressant. D'abord, accueillir la miséricorde, c'est pas simplement « je te pardonne », c'est goûter aussi après cette miséricorde qui nous est faite. Sinon, c'est comme la confiture donnée au cochon. Mais il n'apprécie pas, il est bien content, hein, il se nourrit, mais ça ne va pas plus loin. Alors que ça peut vraiment nous nourrir, la miséricorde. Voilà. Alors, j'avance. Ah ben, vous vous rappelez ce verset du psaume 31. « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. » Mais il faut encore s'en réjouir. Hein. Voilà. Alors ça, donc miséricordieux, car déjà bénéficier de la miséricorde de Dieu, d'abord c'est d'abord accueillir la miséricorde et puis après vivre une cohérence entre la miséricorde reçue et la miséricorde offerte. Hein. C'est le « comme » qu'on revoit à plusieurs moments dans l'Évangile. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » et Saint Luc traduit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». D'ailleurs, le pape François, pendant l'année de la miséricorde, avait dit, mais vous imaginez tout de suite que l'année de la miséricorde, c'est pour vous faire pardonner. Mais ce n'est pas seulement ça, l'année de la miséricorde. C'est aussi faire miséricorde aux autres. Il insistait pas mal sur ce point-là. Parce que nous, bien sûr, nous, on est la petite brebis perdue, là, on va dans les bras de Jésus et tout ça, et puis... Mais oui, mais les autres, ils attendent ta miséricorde aussi. Sinon, ça manque un peu de cohérence là-dedans. Et voilà, comme. Alors, bien sûr, c'est la miséricorde de Dieu qui est première, ça c'est clair. Mais en même temps, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on ne reçoit pas pleinement la miséricorde de Dieu tant qu'on l'a pardonné. Le don de Dieu n'est pas arrivé à son terme. Bien sûr que Dieu n'attend pas et dit « Bon, tu commences par pardonner, après je verrai si je te pardonne. » Non, Dieu nous a déjà pardonné. Mais en même temps, on n'accueille pas son pardon jusqu'au bout tant qu'on n'a pas pardonné nous-mêmes. Une petite citation de Saint-Pierre Chrysologue. C'est être un solliciteur insolent que demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Sois la norme de la miséricorde à ton égard. Si tu veux qu'on te fasse miséricorde de telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais-toi-même miséricorde aux autres, avec la même promptitude, la même mesure, de la même façon. Et puis... Donc, c'est miséricordieux, car déjà bénéficier de la miséricorde de Dieu, bon, c'était pour rajouter un troisième point, hein, mais c'est que c'est ce qui nous fait ressembler à Dieu, qui éprouve vraiment de la joie à faire miséricorde. C'est pas un exercice contraint et forcé, soyez miséricordieux, bon, il faut bien, donc allez, j'y vais. Mais quelque part, ça nous fait entrer davantage dans la mentalité de Dieu, quelque part. Et Dieu, il prend plaisir vraiment à faire miséricorde. Nous, je ne sais pas si on prend toujours plaisir à faire miséricorde. Voilà ce que disait le pape François en 2016. Nous ne serons vraiment heureux que si nous entrons dans la logique divine du don, de l'amour gratuit. Nous ne serons heureux que si nous découvrons que Dieu nous a si infiniment aimés qu'il nous a rendus capables d'aimer comme lui sans mesure. Voilà. Et du coup, vivre la miséricorde, c'est quelque chose qui fait partie. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et du coup, c'est pas un hasard si le fait de faire miséricorde peut nous rendre profondément heureux. J'arrive à la troisième partie, mais je vais vite, hein, mais sauf qu'elle est longue, la troisième partie. Là, c'est les trois facettes de la miséricorde, les œuvres de miséricorde, la culture de la miséricorde et le pardon. Le pardon. Souvent, bon, donc on pense plus miséricorde, on pense au pardon, mais c'est plus large. D'abord, les œuvres de miséricorde. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur les œuvres de miséricorde. Il y aurait sans doute à dire. Vous les connaissez, les... Vous les connaissez ? Il y a des œuvres de miséricorde corporelles et il y a sept œuvres de miséricorde corporelles et sept œuvres de miséricorde spirituelles. Vous voulez que je vous les cite ? Ça vous donnera des petits... un petit rappel ? Alors, les œuvres corporelles sont donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Ça, c'est corporel. Les œuvres spirituelles sont conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, sixièmement, tout le monde aime bien, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, et septièmement, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà. Ça peut faire du bien si de temps en temps vous êtes à court, vous ne savez pas quel effort faire. Mais soyez miséricordieux et je trouve que c'est beau, elles sont belles.
Vous l'avez trouvé sur le...
Alors, vous pouvez le trouver, sinon vous le trouvez sur Internet. Dans le catéchisme, on nous en parle au numéro 2447, par exemple. Mais sinon, vous les retrouvez sur Internet. Oui. Pour ces œuvres de miséricorde, ça peut être aussi de suivre... Alors, j'aime bien la parole du bon samaritain. Trois étapes. La première, c'est qu'il est saisi de pitié. Les autres... on voit bien devant une misère, soit on se ferme parce qu'on ne sait pas où ça va nous emmener et tout ça, ou soit on reste juste à un niveau cérébral, on fait des grandes déclarations sur la pauvreté, tandis qu'il y a un pauvre qui est devant nous, oui mais... voilà, alors être saisi de pitié, c'est aussi le domaine des émotions, est-ce que je me laisse... Une deuxième, c'est de s'approcher, parce que les autres, ils n'ont pas vu peut-être s'il était mort ou encore vivant... et quelquefois de s'approcher de la misère, mais on voit un peu plus où on en est, où en sont les choses. Et puis la troisième, c'est il fait son possible. Je ne sais pas s'il aurait gagné son diplôme d'infirmière. Il a mis du vin, de l'huile, voilà, un peu de vinaigrette. Mais je ne sais pas s'il aurait gagné et il aurait été attaqué en procès peut-être après parce que il n'a pas fait selon les protocoles, mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Mais au-delà des soins physiques, l'autre était, bon, c'est une parabole, mais l'autre était bien content d'avoir quelqu'un qui soit approché de lui. Voilà. Alors tout ça pour, voilà, vous pouvez reprendre ce canevas un peu pour aborder chacune des œuvres de miséricorde. Voilà. Alors là, je vais insister un peu plus sur progresser dans une culture de la miséricorde. Je viendrai au pardon après, je serai assez bref sur le pardon aussi. Mais là, j'insisterai peut-être un peu plus sur une culture de la miséricorde, parce que alors la question du pardon est importante, très importante, mais non, ça c'est la lumière qui allume l'extérieur. C'est plutôt là-bas. Mais tu as peut-être allumé à l'extérieur. Ah bon. Alors, là aussi, progresser dans une culture de la miséricorde, il me semble que c'est plus global, que c'est pas seulement pour tel ou tel fait particulier, c'est beaucoup plus large. Et la première chose, je pense, c'est d'avoir une conscience plus vive de nos propres imperfections et limites. Alors, ce n'est pas pour se dévaloriser. Il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de parler de l'humilité. Alors ça, c'est peut-être un peu ambitieux de parler de l'humilité, mais du coup, ce que je disais avant même de parler de l'humilité, j'ai voulu parler de l'estime de soi. Parce que sans estime de soi, il n'y a pas d'humilité possible. C'est ce qu'écrivait un chartreux, et je trouvais ça très intéressant. Parce que c'est le sol qui se dérobe sous nos pieds, on ne sait plus où on va. Si on a... Mais je peux être humble parce que je sais aussi faire un peu la part des choses. Je me suis dit, je suis le plus nul de la terre et je rentre dans mon trou et tout ça. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître ses torts, c'est aussi accepter de demander pardon. Il y a un certain nombre de démarches très qui sont signes d'humilité, mais l'humilité, c'est pas du tout dire je suis le plus nul de la terre et tout ça. Et puis pendant ce temps-là, on se recroqueville et puis on ne fait plus rien, quoi. Donc, c'est pas ça, la vraie humilité. Mais de la même manière, là, avoir une conscience plus vive de ses imperfections, c'est pas... Je pense qu'on peut en avoir une conscience d'autant plus vive qu'on se sait aimer de Dieu et qu'on se sait aimer des autres. C'est quand même plus simple de reconnaître ses torts quand on sait que, de toute façon, la personne en face, elle ne me juge pas. Alors, quelque part, je pense qu'on a besoin, en tout cas déjà vis-à-vis de Dieu, de savoir que Dieu nous aime et que ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal que Dieu nous regarde de travers. La reconnaissance de notre péché s'appuie sur la certitude d'être aimé de Dieu, qui nous aime au-delà de ce que nous avons fait de bien ou de mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, il y a des beaux textes, Saint Jean Chrysostome qui dit « Le Christ nous demande donc deux choses, condamner nos péchés, pardonner ceux des autres. Faire la première chose à cause de la seconde, qui sera alors plus facile, car celui qui pense à ses péchés sera moins sévère pour son compagnon de misère. Et pardonner non seulement de bouche, mais du fond du cœur, pour ne pas tourner contre nous-mêmes le fer dont nous croyons percer les autres. Quel mal peut te faire ton ennemi qui soit comparable à celui que tu te fais toi-même? Si tu te laisses aller à l'indignation et à la colère, tu seras blessé non par l'injure qu'il t'a faite, mais par le ressentiment que tu en as. » Ou Saint Bernard, « Considérez ce que vous êtes, et vous êtes vraiment misérable, afin d'apprendre ainsi la miséricorde que vous ne sauriez connaître autrement. Si vous considériez les misères du prochain sans voir les vôtres, vous pourriez sentir en vous plus d'indignation que de compassion, être porté à juger plus qu'à soulager et à détruire en esprit de colère plus qu'à instruire en esprit de bonté. Vous qui êtes spirituel, dit l'apôtre, relevez les autres avec douceur. C'est le conseil ou le précepte de l'apôtre que vous traitiez un frère malade avec un esprit de douceur. C'est-à-dire que vous désirez être traité vous-même quand vous êtes malade. Et si vous voulez connaître le secret de la douceur envers ceux qui pêchent, considérez-vous vous-même et craignez d'être tenté. » Voilà, enfin, je ne vais pas vous citer tous les passages, mais ce premier pas pour progresser dans une culture de la miséricorde, c'est d'avoir une conscience plus vive de nos travers. Et quelquefois, permettre, alors là c'est compliqué, hein, c'est souvent plus difficile de dire, bon, oui, j'ai mal fait, tout ça, bon, ça, on y arrive quand même un petit peu. Quand l'autre nous dit, tu as mal fait, tout ça, là, c'est plus compliqué à accueillir. Voilà, on est comme ça. Hein. Deuxième pas, c'est arrêter de juger et de condamner. Et je suis plus en plus marqué, c'est vrai pour la vie communautaire, mais c'est pas seulement la vie communautaire, combien le jugement paralyse les relations. Quand on se sent jugé, alors à tort ou à raison, hein, quelquefois il y a la subjectivité entre les deux. Et c'est pas, on peut se sentir jugé sans que l'autre nous juge, quelquefois. Hein, mais quelquefois, on a des attitudes où l'autre se sent jugé. Alors, c'est intéressant de travailler là-dessus. Vous connaissez la fable de la besace? J'aime bien cette fable. Cette fable, c'est le Seigneur nous a. Comment il dit ça? Ben non, j'ai pas pris ici. C'est donc c'est la besace. Et alors la tendance, c'est d'avoir la besace avec les péchés des autres devant et nos péchés à l'extérieur et nos péchés derrière. Donc on voit pas nos péchés, ça nous empêche pas de critiquer. On a la besace avec tous les défauts de. Et la grande astuce, c'est d'inverser les besaces. C'est de mettre la besace avec tous nos torts et tout ça, et celle des torts des autres derrière. Du coup, pour avoir présent à l'esprit plutôt nos torts que ceux des autres. Voilà. Mais vous pourrez regarder la fable de Jean de La Fontaine, la besace. Alors, je résiste pas, c'est assez long comme texte. Ah, mais peut-être que quelqu'un veut le lire. C'est Dorothée, c'est un homme, hein, c'est Dorothée de Gaza, c'est un moine en Palestine. Oui, qui voudrait lire un texte de... Il y aura deux textes. De... Voilà. Alors, vous pouvez lire celui-là, jusque-là.
Certaines personnes convertissent en humeur mauvaise tout aliment qu'ils absorbent. Même si cet aliment est sain, la faute n'en est pas à l'aliment, mais à leur tempérament qui altère les aliments. De même, si notre âme a une mauvaise disposition, tout lui fait du mal. Elle transforme même les choses utiles en choses nuisibles pour elle. Si on jette un peu d'herbe amère dans un pot de miel, ne vont-elles pas altérer le pot entier en rendant tout le miel amer? C'est ce que nous faisons. Nous répandons un peu de notre amertume et détruisons le bien du prochain en le regardant d'après notre mauvaise disposition.
D'autres gens ont un tempérament qui transforme tout en bonnes humeurs, et même des aliments mauvais. Les porcs ont une très bonne constitution. Ils mangent des gousses, des noyaux de dattes et des ordures. Pourtant, ils transforment cette nourriture en viande succulente. Nous de même, si nous avons de bonnes habitudes et un bon état d'âme, nous pouvons tirer profit de tout, même de ce qui n'est pas profitable.
Alors donc, soyez des porcs. Ah, j'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup cette image qui est très vraie en plus. Qui est très vraie, je trouve. Il y a des personnes. Voilà. Le Père Lamy le dit d'une manière. Marie est une chiffonnière, elle sait toujours trouver des petites choses, elle les dore, elle les embellit, et puis voilà, elle en fait quelque chose de beau. Voilà. Alors, je peux. Encore une autre citation de. De Saint Dorothée de Gaza. J'ai entendu dire d'un frère que si allant voir un autre, il trouvait sa cellule négligée et en désordre, il se disait en lui-même « Ah, comme ce frère est heureux d'être complètement détaché des choses terrestres et de porter si bien tout son esprit en haut qu'il n'a même plus le loisir de ranger sa cellule. » S'il allait ensuite chez un autre frère et trouvait sa cellule rangée, propre et bien en ordre, il se disait « Ah, la cellule de ce frère est aussi nette que son âme. Tel l'état de son âme, tel l'état de sa cellule. » Jamais il ne disait de quelqu'un « Celui-ci est désordonné » ou « Celui-là est frivole ». Grâce à son état excellent, il tirait profit de tout. Que Dieu, dans sa bonté, nous donne à nous aussi un bon état pour que nous puissions profiter de tout et ne jamais mal penser du prochain. Si notre malice nous inspire des jugements ou des soupçons, transformons vite cela en bonne pensée, car ne pas voir le mal du prochain engendre, Dieu aidant, la bonté. Alors j'aime bien ces textes de Dorothée de Gaza. C'est vraiment une tournure d'esprit, hein, une tournure d'esprit qui ne va pas dans la tournure d'esprit mondaine, on pourrait dire, hein, où on pointe tout, facilement ce qui va mal et tout ça. Mais voilà. Je ne vous lis pas tout. Saint Bernard, ça changera. Je vous lis. Même si votre prochain commet un acte que vous réprouvez, ne le jugez pas, cherchez-lui une excuse. Pardonnez au moins l'intention si l'acte vous paraît inexcusable. Supposez l'ignorance, la surprise, un hasard fâcheux. Même si la chose est manifeste, dites-vous, la tentation était forte, à quoi m'aurait-elle réduit si elle avait pris sur moi le même empire ? Voilà, de trouver les circonstances atténuantes, etc. C'est intéressant, c'est un peu notre positionnement aussi. Est-ce qu'on est à côté de l'autre, on est compagnon dans la même barque et puis voilà, ou est-ce qu'on est de chaque côté du filet et puis on se renvoie la balle. C'est vraiment un positionnement, j'en parlerai peut-être encore un petit peu cet après-midi, mais je trouve ça très intéressant. C'est pas bien sûr seulement un positionnement physique, mais je l'expérimente aussi avec les frères en communauté. Ça se sent, je ne sais pas comment, en tout cas, il s'agit d'exprimer aussi qu'on n'est pas de chaque côté, ou on n'est pas en surplomb par rapport à l'autre. Il faut trouver les moyens de l'exprimer, mais qu'on est dans la même barque. C'est Gottman, vous connaissez un peu Gottman ? C'est le Dr Love. et Gottman, alors j'avais été intrigué par Gottman parce que dans un numéro du mois de février pour la Saint-Valentin de l'Invisible, ils parlaient de Gottman et ils avaient dit que les centres de mariage d'Allemagne s'étaient inspirés de lui pour ne pas marier des gens qui divorceraient après. Alors du coup, je me suis dit, tiens, ça devait être intéressant. Mais alors, après, j'ai testé. Alors, au début, ça paraît un petit peu, comment dire, écrit d'avance. C'est pas du tout déterministe, Gottman. Mais en tout cas, il parle beaucoup du couple comme une équipe. Alors, si on forme vraiment une équipe, voilà, on essaie chacun et puis on se soutient mutuellement pour que l'équipe gagne. Il n'y a pas d'intérêt à ce que l'un ou l'autre gagne. L'intérêt, c'est que l'équipe gagne. Hein, quelquefois, on voit dans les équipes de foot, il y a des telles célébrités qu'ils veulent tous faire leur numéro, mais finalement, ils perdent. Et au contraire, les joueurs sont quelquefois moins brillants, mais comme il y a une cohésion d'équipe et tout ça, ils gagnent. Voilà. Mais alors, ça, je crois que le couple, c'est une équipe avant tout. Une équipe, et alors on soutient, et une communauté, normalement, ça doit être une équipe. Allez, on soutient, et puis, allez, on y va. Mais si on commence à juger, à se positionner en adversaire, ou on dirait peut-être pas en adversaire, mais quand même un peu à côté les uns des autres, et pas vraiment... Mais on se pose, ça change beaucoup de choses. Voilà. Oui, alors, bon, c'est bien beau, vous me dites. Mais, alors, je récapitule, oh là, je ne sais plus où j'en suis. C'est avoir une conscience plus vive de nos imperfections. Après, c'est arrêter de juger et de condamner. Et troisièmement, c'est ne pas dire du mal, mais il ne faut pas s'arrêter là, c'est aussi dialoguer avec l'autre et pratiquer la correction fraternelle. La correction fraternelle. Correction. Correction. Alors, ne pas dire du mal, le pape François a des expressions très marquantes. Il parle du le style accusateur et le style du diable. Hein, donc, où il parle quelquefois de ceux qui disent du mal. Voilà, c'est des terroristes. Ils lancent une pensée sur quelqu'un et tout ça. Et puis après, ça explose. Et puis eux, ils s'en vont tranquilles. Et puis, mais ils ont fait du mal. À ce sujet-là, donc il ne s'agit pas de dire du mal. Mais dire du mal, ça ne veut pas dire rien dire. Et je pense que c'est important déjà de dialoguer. J'y reviendrai sans doute un peu cet après-midi, mais c'est très important, je vois en communauté, si on ne dialogue pas, il y a des incompréhensions, des interprétations qui prennent de la place, et du coup, ça crée de la distance. C'est vraiment important de dialoguer. Un jour, un des frères de la communauté est appelé auprès d'un monsieur qui était en train de mourir. Bon, et donc, il voulait recevoir les derniers sacrements. Et quand le frère arrive auprès de lui, « Ah, c'est le plus beau jour de ma vie !» et tout ça. Et il ne pensait pas, enfin peut-être, mais parce qu'il allait retrouver le bon Dieu vite, etc. C'était une question d'heure, sans doute. Mais parce qu'il avait eu une discussion avec sa femme. Et du coup, alors c'était un couple uni, apparemment, etc. Un couple uni, c'est... Mais après coup, alors il est... Ça aurait été quand même mieux de le faire un peu avant, ce dialogue. N'attendez quand même pas la dernière heure. Mais ils avaient pu se dire des choses, ils étaient restés sur une incompréhension et tout ça. Et du coup, il a permis de voir aussi les intentions qu'il avait pu prêter à sa femme, ça ne correspondait pas du tout. Sur des choses bêtes. Alors, je ne sais plus si c'était ça, mais juste pour illustrer, sa femme prenait toujours le croûton, et puis lui, il aurait bien aimé le manger. Et puis, en fait, sa femme le faisait parce qu'elle pensait que son mari n'aimait pas ça et elle ne voulait pas lui faire... elle voulait qu'il ne se sente pas obligé de manger, quoi. Mais c'est un exemple bête, mais il peut y avoir des foules d'incompréhension un peu stupide, et du coup il faut le dialogue est vraiment important pour je l'expérimente aussi avec mes frères de communauté. Quelquefois ça peut arriver qu'il y ait des choses qui m'agacent, et puis mais quand on est, ça fait toujours du bien de se rencontrer personnellement. Quand on peut toucher du doigt la bonne volonté de l'autre, ben, ça nous fait perdre tous nos moyens. On avait envie d'être un peu... Là, on n'a plus envie de faire mal. En tout cas, le dialogue est vraiment important. Et la correction fraternelle. J'insiste beaucoup en communauté. Et la miséricorde, ce n'est pas une grâce à bon marché ou quelque chose comme ça, hein, qu'on a dit. La correction fraternelle est vraiment importante. La miséricorde, ce n'est pas quelque chose de bonasse. Et puis, voilà, on laisse faire les choses. Et puis... Non, aussi parce que c'est ce que disait Père Maximilien, si mon frère fait quelque chose de mal, c'est aussi par amour pour lui que je le reprends. Et je peux le reprendre un peu vertement, peut-être même, mais l'enjeu en vaut peut-être la peine. Ça ne fait pas forcément de mal de secouer, hein, mais secouer charitablement. après, vous connaissez cette parole de Saint Paul que j'aime bien, Éphésiens 4, 29, je crois. S'il y en a besoin, dites une parole bonne, constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Ça, je trouve qu'elle est lumineuse, cette parole de Saint Paul. Est-ce que la perspective, c'est de construire ou c'est de vous soulager parce que vous en avez marre, etc. Mais est-ce que c'est bonne, bienveillante et constructive? Et ça, j'aime bien cette phrase de Saint Paul. Voilà. Et on voit bien aussi que la correction fraternelle, c'est... On a en vue que l'équipe gagne. Donc je reviens encore à cette image. L'arbitre qui sifflerait toutes les 30 secondes, il arrête le jeu pour remarquer les choses qui ne vont pas. On arrête de jouer. On n'est plus motivé au bout d'un moment si on nous arrête tout le temps. Donc c'est aussi la correction fraternelle, c'est pas mettre le doigt à chaque fois, c'est de voir quand c'est opportun aussi. Si c'est opportun, quelquefois il y a des personnes, pour l'instant c'est pas le moment de faire la correction fraternelle. Donc je veux pas dire qu'il faut à tout prix faire quelque chose, parce que sinon on se décourage. C'est aussi, c'est vraiment faire attention les uns aux autres, voir qu'est-ce que l'autre peut accueillir aussi. Peut-être que bon, c'est pas le moment de dire quelque chose parce que bon, ça demande beaucoup de prudence aussi. Vous sentez que c'est pas, et c'est surtout pas se décharger. C'est s'il y en a besoin, dites une parole. S'il y en a besoin, ouais, il faut évaluer. Hein. Donc voilà. Bon, alors le pardon. C'est le troisième point. Là, c'était sur la culture de la miséricorde, mais je pense que cette culture de la miséricorde, j'insiste. Pas mal là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu diffus dans l'air d'une famille, d'une communauté. Est-ce qu'on se pardonne? Est-ce que on a le droit? On peut dire nos faiblesses? Est-ce que on peut, voilà, on a besoin de ça? Le pardon, alors j'aime bien cette image, c'est pour une communauté ou une famille comme l'huile pour un moteur. Alors, Gianni, qu'est-ce que ça fait un moteur quand il n'y a plus d'huile? Ça grippe. Et c'est pareil dans une famille. Au bout d'un moment, on fait quelques kilomètres et boum, on rate en rade. En pleine... voilà. Et parce que... Et on a besoin de... Il y a besoin de mettre pas mal d'huile si on veut que nos communautés aussi... Alors le pardon, ben, comme vous savez, c'est pas quelque chose d'automatique. Je veux pardonner, toc, j'appuie sur l'interrupteur, pardon, toc. Non, c'est pas automatique. Mais en même temps, si on fait rien, c'est alors, là aussi, c'est pas quelque chose de magique. Mais du coup, certains ont fait, vous connaissez le père Montbourquette, peut-être avec ses 12 étapes pour pardonner, vous connaissez pas? Oh ben vous regardez sur Internet, 12 étapes pour pardonner, vous les trouvez facilement. Je ne vais pas les reprendre, je vais reprendre juste quelques petits éléments, mais sinon on entend déjà sonner. Donc, mais c'est quand même savoir quel est le pas que les seigneurs attendent de moi, dans le sens du pardon. Peut-être que je ne peux pas arriver encore, et puis voilà, ce n'est pas encore mûr. Ça, c'est possible, et que voilà. Mais en même temps, j'aime beaucoup la tactique du petit pas. Quel est le petit pas que je peux faire aujourd'hui? Déjà, une fois qu'on fait le petit pas, on n'est pas bloqué, arrêté. Voilà. Quel est le petit pas? Alors, voilà. Après, le pardon, ça s'occupe, disait Jean-Paul II aussi, il a écrit un message pour la paix après les. Oui, après l'attentat là, du 11 septembre, je ne me rappelle plus exactement le titre, c'est « Sans pardon, il n'y a pas de justice sans pardon », je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qu'il disait aussi, c'est « Le pardon s'oppose à la rancune et à la vengeance. Il ne s'oppose pas à la justice. Hein, » Donc voilà, c'est quelques petits éléments qui les bon. Vous connaissez aussi ce que c'est que la vengeance passive? C'est juste des petites choses, non? Ça vous dit rien?
C'est comme de la vengeance.
Un peu, oui. Oui, c'est ça. On vous a fait du mal, vous ne vous vengez pas, vous ne faites pas de mal. Mais il n'y a plus de courant qui passe. Hein, au boudet, c'est une forme de vengeance passive. Voilà, bon, je ne ferai plus rien pour lui. Je ne ferai rien de mal, mais je ne ferai rien de bien. Mais non, ne rien faire, c'est déjà, on est déjà du côté du mal. Voilà. Mais Je développe pas davantage. Voilà, toc, je passe, toc. Alors, il y avait une belle prière que Laetitia a lue au début de l'adoration. Il y a la prière de Sainte Faustine pour exercer la miséricorde. Pour que mes yeux soient miséricordieux, que mon oreille, que ma langue, mes mains, mes pieds, mon cœur soient miséricordieux. Alors, n'hésitez pas à reprendre cette prière. Je voulais terminer en disant que c'est la plus grande qualité de Dieu, sa miséricorde. Et voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin, s'il vous plaît. La miséricorde est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Vous connaissez la prière d'ouverture, vous pouvez vérifier, là j'ai la citation du 26e dimanche du temps ordinaire, vous pourriez la connaître par cœur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, et après, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, etc. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié. Quand, devant vos enfants, vous pouvez... Seigneur, revêt-moi de ta toute puissance. Là, j'en ai besoin. La preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Quelquefois, la patience, ça paraît quelque chose d'un peu... Voilà. C'est pas rien, la patience. Hein. C'est pas rien. Alors, il faut que je dise un petit mot de Marie, quand même. Hein, souvent... L'amour miséricordieux en Marie se fonde sur le tact particulier de son cœur maternel, sur sa sensibilité particulière, sur sa capacité particulière. Le mot particulier, sa capacité particulière de rejoindre tous ceux qui acceptent plus facilement l'amour miséricordieux de la part d'une mère. Et donc, vous avez vu peut-être le film de. Sur la passion du Christ, hein, sur la quand Saint-Pierre il renie Jésus et puis après qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Alors il va voir Marie, à ce moment-là parce qu'il considère en tout cas que c'est la seule qui peut l'accueillir avec ça.